La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec, comme tous les jours jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et toutes vos questions, vos réactions en direct au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe.
Bonsoir à vous les grandes voix, merci d'être dans ce studio ce soir. Vous les avez vus hein, avec leurs tracteurs, ces agriculteurs, ils étaient très nombreux depuis l'aube, hein, d'abord sur le périphérique parisien. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est obtenir un rendez-vous avec le chef de l'État. Ils sont exsangues, ils n'en peuvent plus, ils sont en colère contre les prix bas. Le gouvernement marche sur des œufs avec le monde agricole. Hein.
Oui. Gérard Carrérou. Oui, et puis ils ont raison, je trouve, les agriculteurs.
C'est approprié. Pardon.
Moi, je dis que je soutiens ces braves paysans. Je les soutiens pour deux raisons. D'abord parce que, comme beaucoup d'entre nous, je suis un petit-fils de paysan et on sait ce qu'ils ont apporté, effectivement, et qu'ils continuent d'apporter à notre pays.
Hein. De l'Aveyron.
Hein. On mange, c'est oui, ça. De l'Aveyron, oui. Pourquoi pas le dire.
Au contraire, on les salue d'ailleurs.
Donc, aujourd'hui, ils sont d'abord dévalués, déconsidérés socialement, dans notre société. Et donc, dans leur lutte, je dirais même peut-être avant l'argent, avant les revenus, les faibles revenus, il y a la reconnaissance sociale. Avant, les paysans étaient estimés, on disait, ah oui, les paysans, ça compte, etc. Aujourd'hui, les paysans, pas tout le monde, mais beaucoup de gens s'en fichent. On les passe un petit peu par pertes et profits. Donc, ils se rebellent contre ça. Et deuxièmement, effectivement, leurs revenus sont, quand ils arrivent à se faire, certains d'entre eux, un demi-SMIC par mois, ouais. Et quand ils atteignent, c'est le nirvana quand ils ont le SMIC, franchement, pour des gars qui se lèvent le matin tôt, qui travaillent toute la journée, qui ne prennent pas de vacances, etc., dont les femmes bossent autant que les hommes, je trouve que c'est pas bien.
Ils sont presque 20% à ne pas pouvoir vivre de leur métier. Ils veulent des mesures concrètes et tangibles. C'est une crise existentielle, Catherine Ney, la crise des agriculteurs.
Oui, c'est un peu une crise existentielle parce qu'ils recherchent aussi de la considération. Mmh. Ils ont quand même comme pour mission de nourrir la population. Et voilà que nourrir la population, aujourd'hui, on les suspecte d'empoisonner. Mmh. D'empoisonner les gens avec les pesticides les tout ce... et de faire une agriculture qui n'est plus, voilà, qui est nuisible au pays. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très, très dur. Et donc, c'est quand même une population où il y a un suicide par semaine, au moins. Et donc, quand c'est les postes où les France Télécom ont dit un suicide, et il y en a plein les journaux, là, c'est passé, on en parle à peine. Il y a juste le journal local qui note une chose. Et donc, on a une vision, on voit mal, on a beau faire, il peut y avoir une émission « L'amour est dans le pré » pour inciter les femmes à venir épouser des agriculteurs. Et c'est vrai que quand on voit ces émissions, on a l'impression que la vie est facile. Et puis on s'aperçoit que pas du tout. Et que la plupart, même des gens qui passaient dans l'émission, ont abandonné parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre de leur métier. Donc c'est quelque chose... On a retenu des agriculteurs. Simplement, on les célèbre au moment du salon de l'agriculture, ouais. Où tout le monde vient. Et après, on les oublie. Et eux ne peuvent toujours pas vivre...
Du fruit de leur travail.
Exactement. Et c'est intéressant ce que vous dites, Catherine, sur on les célèbre au Salon de l'agriculture. Charles Villeneuve, on les a beaucoup célébrés, les agriculteurs, nos agriculteurs. On se souvient de Jacques Chirac, qui véritablement hein, était en amitié avec beaucoup d'entre eux, qui était comme ça dans une proximité, dans une complicité. Les temps ont changé. Ils reprochent aujourd'hui, par exemple, entre autres, à Emmanuel Macron d'avoir décidé d'interdire l'utilisation du glyphosate hein, d'ici à 2020. Et voilà une contrainte supplémentaire pour ces agriculteurs. Et voilà... une rencontre, là, en cours au ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ?
Mais d'abord, le président de la République, en octobre de 2018, a été le générateur d'une loi qui s'appelle la loi Egalim. Cette loi Egalim devait pousser les producteurs, la grande distribution, à mieux rémunérer les producteurs de ces produits, c'est-à-dire les agriculteurs. En gros, il devait leur revenir le tiers, si vous voulez, de ce que rapportait un produit agricole. Ça ne s'est pas fait, au contraire, c'est la grande distribution qui ramasse le max et les agriculteurs qui ont le plus petit lot.
Mais alors pourquoi on leur a tourné de l'eau ?
Alors ensuite, non mais ensuite, et là, on leur a dit, écoutez, on vous a poussé finalement à la production extensive, à élargir, à agrandir vos terrains, au remembrement, à la destruction des haies. Ça a quelque chose à voir avec les inondations, mais enfin c'est un autre sujet, le cadastre, etc. Et puis là, on vous dit finalement le processus de production de vos produits, on n'en veut plus. C'est pas la peine parce que avec les engrais, avec les pesticides, avec la suppression annoncée d'ici 3 ans du glyphosate, sur lequel d'ailleurs il n'y a pas de preuve absolue, avec le fait que les médias maintenant aussi plus les écologistes, plus finalement un certain nombre de gens, il y a un malaise existentiel qui s'est installé parce qu'on les considère quasiment comme des... Ils vous disent d'ailleurs quand vous dialoguez justement sur leur tracteur. Allez, tout à l'heure à la porte d'Auteuil, il y avait des tracteurs. Moi, j'habite pas loin, donc j'ai été un peu dialogué. Il me dit, on est des assassins. Vous nous considérez comme des assassins. Mmh. J'étais frappé. Moi, j'ai dit non, quand même pas. On va pas jusque-là. Donc, il y a au malaise économique, il y a le malaise existentiel dont on parlait.
Il y a des associations qui, franchement, exagèrent. Sous prétexte de bonne cause, la cause animale, elle pousse. On a l'impression qu'effectivement, ce sont des criminels, maintenant, les agriculteurs.
Oui, parce que c'est leur place dans la société qui se joue dans cette affaire.
Et eux, ils dénoncent cet agribashing ambiant, et notamment sur les pesticides, on l'a dit. On va revenir dans un petit instant, les grandes voix. On reste ensemble, évidemment, jusqu'à 19h.
Et vous pouvez réagir en direct. N'hésitez pas à venir poser toutes vos questions aux grandes voix 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous, Nathalie Lévy, ce soir Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou et toutes vos réactions en direct au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nos militaires tués hier au Mali, 13 militaires français, on l'a dit hier soir dans ce studio. Je voudrais qu'on entende cette petite phrase, l'ex-président François Hollande qui a insisté, interrogé aujourd'hui, qui a insisté sur la nécessité de cette opération Barkhane. Écoutons.
Comme président de la République, j'ai pris la décision d'engager nos forces militaires au Mali, c'était en janvier 2013. Je mesure chaque jour la responsabilité que j'ai prise, parce que chaque fois qu'il y a un drame, une tragédie, je sais que c'est à la suite de la décision que j'ai prise. Mais cette responsabilité, je l'assume aujourd'hui encore.
Il assume, François Hollande, il assume parce que la France a un rôle à jouer pour la sécurité du monde et ce rôle, les Français doivent en être conscients et fiers. Il faut rester, il faut assumer, il faut rester droit dans ses bottes sur ce terrain-là. Charles Villeneuve.
Mais depuis que la France a été violemment attaquée sur son territoire en 2014, 2015, 2016, les Français, je pense, ont pris conscience du fait que les opérations extérieures ne le sont pas véritablement et que ce qui se passe, si vous voulez, au Sahel, la guerre, les guerres du Sahel, on devrait dire les guerres parce qu'il y en a plusieurs qui se juxtaposent, finalement est nécessairement une sorte de défense, si vous voulez. C'est en quelque sorte l'avant-garde de ce qui peut arriver en France sur le territoire et aussi sur l'Europe. Et le problème, de toute façon, parce que la France ne peut pas pacifier à elle seule l'Afrique, il est bien évident que devraient se mêler à cette pacification, au moins sur l'aide financière, les États européens. Or, les États européens, indéniablement, ces pays-là, à commencer par l'Allemagne, ne croient qu'à une seule chose, à la protection de l'OTAN et des États-Unis. Et ne croient pas du tout, si vous voulez, à un effort de défense européenne, et notamment sur le plan financier. Or, la France n'a pas tout à fait les moyens, il faut le reconnaître, de pacifier, si vous voulez, l'Afrique, pour qu'ensuite les entreprises chinoises, japonaises, allemandes, israéliennes, américaines, idem, puissent tranquillement y venir, se faire attribuer des marchés. Ouais. C'est ça aussi tout le problème qui se pose, c'est un problème difficile. Il n'empêche que j'écoutais Alexis Corbière ce matin sur une télévision, et c'est vrai qu'il dit qu'il doit y avoir un débat, moi je suis assez d'accord avec ça,
ouais,
qu'il y ait un débat tout à fait démocratique, et que Peut-être, parce que partir tout de suite du Sahel, ce serait catastrophique. Ce serait un message de victoire aux katibas islamistes, toutes celles qui viennent du Nord et qui veulent contrôler les quatre principales villes du Sahel. Bon, il est bien évident que partir complètement du Sahel, c'est impensable à l'heure actuelle. Mais en revanche, il est impératif d'établir une stratégie progressive.
Assurer la transition, Gérard Carrérou. Assurer la transition, sécuriser, mais c'est ce qu'on fait déjà
depuis des années. Il y a deux choses. Je pense qu'il faut se préparer à une guerre longue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est irresponsable de dire « et puis on va retirer dans un an ou deux, on va retirer ». C'est peut-être une guerre qui va durer...
Pardon de te couper, Gérard, mais le chef d'état-major des armées l'a dit, entre 5, 10, 15 ans.
Voilà. On a effectivement devant nous une guerre longue. Alors, à ça, je veux dire deux choses. Un, il y a un déficit de pédagogie politique. Parce qu'on ne le dit pas assez aux Français. On leur parle du Mali, au fond, quand il y a
un drame.
Un drame, un gros drame. Ou deux types qui sont descendants. Ah, bon. Ouais. Et il faut le dire, parce qu'il faut leur faire comprendre. La pédagogie, c'est de faire comprendre que la guerre contre le terrorisme en France, avec toutes les mesures qu'on a mises, et la guerre contre le terrorisme là-bas, c'est la même guerre, les mêmes Français qui se battent là-bas et ici. Et si les gens ne le comprennent pas, ils vont avoir, à un moment donné, ils vont dire « Oh, il y en a marre de cette guerre, et puis il y en a marre d'avoir des pauvres Français qui se font descendre. » Donc, premièrement, la pédagogie. Deuxièmement, par contre, il y a une chose qu'on ne pourra jamais obtenir, je ne crois pas, malheureusement, c'est d'avoir ce que les Américains appellent les « boots on the ground », c'est-à-dire les soldats sur le terrain. Alors, nos amis européens, ils sont bien gentils, ils mettent un peu d'argent, ils donnent un peu de matériel. Les Américains
peu,
donnent...
Peu.
D'abord peu, ils pourraient en donner beaucoup plus, mais on n'obtiendra jamais d'eux d'avoir quelques soldats qui se battent sur le terrain pour une raison simple. Ils considèrent, eux, que l'héritage colonial de l'ancienne Afrique occidentale française, etc., que ces pays, c'est l'héritage colonial français, donc que c'est le boulot des Français.
C'est
le drame.
Et oui, Catherine, c'est une vraie question de politique nationale. C'est une question qu'il va falloir trancher, pas à chaque drame, mais véritablement. En amont.
Oui, mais surtout le peu d'appétit des pays européens pour venir aider la France, c'est d'abord que plus de la moitié des pays européens n'y a pas eu d'attentat djihadiste. Donc ils ne se sentent pas concernés. Et aucun de leurs ressortissants n'est parti faire le djihad, vous voyez. Mais en revanche, la plupart des pays européens ont suivi l'aventure américaine à la fois et en Irak et en Afghanistan, où là ils ont eu des morts, tous les pays. Et eux, comment justifier de dire on va aider les Français alors qu'on n'a pas eu de mort et pas d'attentat? Ça, pour eux, c'est impossible aujourd'hui. Et c'est pour ça, alors, l'Estonie a envoyé 50 soldats, ce qui est courageux, parce que quand même, vous voyez, mais c'est pas plus. Bon, alors, les Allemands sont quand même présents à Gao. Il y a un centre où il y a 1000 Allemands qui font des patrouilles dans Gao, mais qui ne vont pas au combat. Mais ils font de la logistique. Quand il y a des opérations françaises sur le terrain, et que c'est dans le désert, et que chaque soldat boit entre 20 et 30 litres d'eau par jour. Qui amène cette eau? Ce sont les Allemands avec leurs avions. Ouais. C'est quand même, il y a cette aide-là. Il y a aussi les...
Tu as raison,
c'est pas les Français.
C'est pas assez, mais
voilà ce qu'ils font.
Je m'excuse, mais les Allemands ont eu quand même une série d'attentats de djihadistes sur leur terrain.
Et la question, c'est quand même de dire le terrorisme, normalement, c'est international.
Ils ont eu des attentats.
Alors, on s'entend plus. On se retrouve dans une seconde, les grandes voix.
Le débat des grandes voix, vous pouvez y participer. Chaque jour, c'est jusqu'à 19h sur Europe 1. Pour interpeller les grandes voix, ça se passe au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix comme chaque soir jusqu'à 19h. Ce soir autour de la table, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Nathalie.
Avec nos auditeurs également au 3921. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir la grande voix.
Bienvenue sur Europe 1. On parlait de l'Europe, évidemment, et juste avant, du désengagement, en quelque sorte, de l'Europe, de cette forme de transparence au Mali. On se posait la question, où sont-ils? Alors que le terrorisme, normalement, c'est international, ça concerne tout le monde. Quelle est votre opinion, vous? Ou votre question?
Alors, mon opinion, j'ai déjà présenté mes condoléances aux familles. C'est dramatique, quoi. Hein, voilà. Mon opinion, c'est qu'on a peut-être fait une boulette en 2013. On est parti là-bas pour des intérêts qui, à mon avis, sont autres. Maintenant, on est sur place. Il faut assumer. Je pense qu'il faudrait tenter de se poser autour d'une table entre Européens. Et effectivement, tenter d'activer cette armée qu'on aimerait européenne, quoi.
Ouais. Retrouver cette unité au moins sur ces questions terroristes, parce que de terrorisme.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire, monsieur, là, sur le 2013? Vous reprochez quoi, 2013? Vous dites qu'il y avait d'autres motifs.
Ouais, je pense qu'on est parti pour certains motifs économiques là-bas.
C'est-à-dire
l'uranium? C'est mon avis personnel, je pense à l'uranium, entre autres.
C'est beaucoup se posent cette question, Charles Villeneuve, vous qui nous connaissez bien le dossier.
Il y avait quand même un objectif qui était pressant, qu'il fallait à tout prix stopper, c'était l'arrivée des Katibas islamistes du Nord sur la ville de Bamako.
Oui.
Bamako est un nœud routier en Afrique, c'est-à-dire que si vous passez Bamako, vous entrez directement au Niger, au Burkina Faso et au sud de la Côte d'Ivoire. à partir de là, pour extraire ces katibas islamistes, si vous voulez, de ces pays-là, c'est la contamination quasi directe. Cet objectif était essentiellement militaire, d'abord. Alors, l'uranium, c'est pas, ça ne se passe pas de ce côté-là. Ça se passe plus, si vous voulez, du côté est, nord-est, pas loin, d'ailleurs, de la Libye, du Niger, du Nigeria, etc. Ça, c'est encore une autre affaire. Bon, mais je ne pense pas que dans un premier temps, en tout cas, maintenant je conçois très bien et je vois très bien, si vous voulez, votre allusion, l'affaire de la guerre du Sahel n'est pas essentiellement pour des objectifs économiques. Au contraire, ça nous coûte beaucoup.
Beaucoup, ça nous coûte entre 600 et 700 millions d'euros par an.
C'est pour ça qu'on a besoin des aides européennes.
Exactement, plus de 3 milliards hein, depuis 7 ans. Merci beaucoup Nicolas de votre appel. On va conclure là-dessus, quand même sur la question de l'absence de l'Europe, ou même au-delà, la question évidemment de ce qu'il faut faire demain sur cette présence. On l'a dit, il faut une transition au minimum, hein, si on doit quitter demain, dans 10 ans, dans 15 ans, le Mali. Mais globalement, voilà, il y a une question terroriste aujourd'hui internationale et donc on n'a pas le choix.
Il faut avoir les nerfs pour tenir 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La guerre d'Afghanistan, les Américains l'ont faite pendant 20 ans.
Non, mais
d'ailleurs,
parce le problème n'est pas réglé.
Le problème n'est pas réglé.
Dans le cadre de la guerre du Sahel, il y a aussi un autre, si vous voulez, un autre front qui est très important, c'est les immigrants, les migrations.
Ouais.
Il faut savoir que les populations subissent des exactions, des massacres, si vous voulez, interethniques aussi, dans cette affaire, qui sont très très graves. Et ces populations fuient et se réfugient dans un certain nombre de pays. Ces katibas islamistes sont des trafiquants de drogue et d'êtres humains. Ce sont eux qui font ce commerce des êtres humains pour les pousser à venir en Europe. Auquel cas, ils les rackettent.
Ouais. Donc un État islamique au milieu de l'Afrique qui serait 3 ou 4 fois aussi plus grand que le califat de Bagdad, de l'Irak et de la Syrie, ça voudrait dire des vagues de migrants à terme venant vers la France, évidemment, d'abord.
Catherine, on va terminer. Je précise juste quand même qu'il y a la MINUSMA, parce qu'on ne l'a pas dit, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui est quand même présente sur place, forte de 11 000 hommes. Donc on parle de l'Europe, mais il y a malgré tout ces 11 000 hommes qui sont quand même engagés.
Et qui font de l'assistance technique, notamment pour apporter de la nourriture aux militaires qui travaillent dans des conditions épouvantables en désert. Mais le problème, c'est que la force Barkhane obtient énormément de succès avec la force Sabre, qui sont celles des forces spéciales, quelques centaines d'hommes qui sont reconnus dans le monde entier comme étant très, très, très pointus et très de grands professionnels. Mais le problème, c'est qu'on nettoie un territoire qui fait 5 millions de kilomètres carrés. Alors, il y a une poche que l'on nettoie. Mais comme il y a une incurie de l'État malien qui, dès que c'est nettoyé, est incapable d'apporter avec des professeurs, organiser la vie normale dans un... les terroristes reviennent. Alors, c'est un peu Sisyphe, l'opération
Barkhane. Non, mais l'État malien, c'est le maillon le plus faible. Ouais.
Merci beaucoup, les grandes voix, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Merci à vous. On se retrouve demain, 18h30, 19h. Europe 1.